Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Un autre jour, nous sommes mercredi. Eh bien, après le petit déjeuner, nous allons célébrer la messe. Et c'est l'épisode où Jésus se retrouve à Nazareth et où les gens sont étonnés de l'entendre, les gens de son village, là. Alors, ils sont étonnés, ils sont même choqués. C'est ce que le texte nous dit. Parce que, bon, ils connaissent sa mère, ils connaissent son monde, ses cousins, les cousines, bon, sa parenté, tout le monde le connaît. Alors, ils sont choqués, sont étonnés, étonnement. Et le texte nous dit aussi que Jésus ne fait pas beaucoup de miracles. C'est comme s'il est empêché, parce que l'étonnement est synonyme d'un manque de foi. Ils ne croient pas en lui. Ils sont bloqués, ils ont un blocage. Parce qu'ils en restent à son humanité. C'est le petit gars, là. C'est le petit garçon qui est arrivé autour de 4-5 ans à Nazareth, avec sa mère, dont on a certainement raconté des choses, et le père aussi, hein, Joseph. Est-ce qu'à ce moment-là, Joseph est encore de ce monde? Le texte ne le dit pas. Mais Jésus adulte, Jésus qui commence à manifester qu'il est l'envoyé du Père, Jésus qui fait des actes de puissance, des miracles un peu partout, eh bien, à Nazareth, il ne se passe pas grand-chose. Et Jésus lui-même est étonné, nous dit le texte. D'un côté, les gens, son monde, sont dans l'étonnement et sont choqués. Ça ne passe pas. Et d'un autre côté, Jésus va dire, ben, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Et lui-même, Jésus, est étonné. Quel est l'étonnement de Jésus? Qu'est-ce qui fait que Jésus est étonné? C'est qu'il voit que le royaume d'amour de son Père, qu'il est en train d'annoncer par ce qu'il est, par ce qu'il fait, eh bien, les premiers qui devraient en être sensibilisés, les gens qui l'ont vu, qui le connaissent, qui l'ont vu grandir, ça devait être quand même quelque chose de voir ce garçon et cet homme rendu à 30 ans qui n'est pas marié. On devait quand même se poser quelques questions sur l'identité de cet homme qui vit avec sa mère. Eh bien, lui-même est étonné. Il est étonné de constater comment il n'y a pas d'ouverture. Alors, ça va durer, ça. Ça va perdurer. Cette difficulté avec non seulement les gens de son village, mais aussi parmi des membres de sa propre famille. Rappelez-vous cet épisode où les gens de sa maison vont demander à Marie, sa mère, de venir avec eux pour venir le chercher parce qu'ils disent qu'il a perdu la tête. Jésus est étonné. Il est étonné de voir comment le cœur humain est fermé, alors qu'il propose le bonheur. C'est du bonheur en annonçant la parole de Dieu et en annonçant la tendresse du Père. C'est du bonheur qu'il donne, qu'il offre. Et quand on fait... Quand on guérit quelqu'un, bien c'est du bonheur, ça éclate. C'est un, C'est un feu d'artifice, cette histoire-là. Mais non. Tout s'éteint. Tout est éteint. Des éteignoirs. Alors, un prophète est méprisé dans sa patrie et dans sa famille. Voilà ce que Jésus raconte. On éteint la flamme, on éteint la lumière, on éteint le bonheur, on étouffe le bonheur. Ça nous fait réfléchir. Alors, la célébration de l'Eucharistie étant terminée, nous partons à 11h30, parce qu'on nous a proposé, le Père Christian nous a proposé de faire ce qu'on appelle un tour avec un autobus touristique. Il y a de ces autocars, l'un des autobus qui existent, qui sont essentiellement dédiés pour les touristes. Alors, ça nous donne une vue d'ensemble. Alors, c'est ce qu'on nous propose. Prenez le temps de voir la ville de Mexico, ses quartiers. C'est une si grande ville. Prenez le temps de faire ce parcours. Alors, on est obéissant. On n'est pas étonné. On est obéissant. Et on le fait. Alors, le Père Christian a prévu que quelqu'un viendrait nous chercher. Alors, c'est un jeune homme, Pedro, qui nous arrive tout pimpant. Il est tout pimpant. Il est plein de joie, plein de vie, ce garçon. Alors, il a un véhicule. C'est un taxi, mais on va comprendre aussi qu'il fait toutes sortes de choses. Mais surtout, il conduit des gens. Il travaille pour une agence immobilière. Et souvent, lorsque quelqu'un veut visiter une maison, c'est lui. C'est lui qui va chercher la personne et qui l'amène à l'endroit désigné. Mexico étant tellement grande comme ville, alors c'est un service que l'agence offre. Et je pense que c'est intelligent. C'est intelligent d'aller chercher les gens, de les amener, de les conduire dans des véhicules qui se tiennent et de faire en sorte que déjà, il y a une approche, je dirais, une approche sympathique, une approche commerciale, oui, il y a du commerce dans cela, c'est du marketing, mais c'est du beau et du bon marketing. Alors, ce Pedro travaille depuis très tôt le matin, depuis 7 heures, nous dit-il, et là, il nous arrive vers 11h30, parce qu'il y a un espace de liberté, et c'est lui qui va nous conduire. Alors, comme je dis, c'est un tempérament joyeux. Et les distances sont toujours aussi grandes pour se rendre d'un lieu à l'autre dans cette ville de Mexico. Alors, nous faisons ce tour de ville avec cet autobus. Alors, Pedro nous laisse à un endroit précis. C'est de là que nous partons. Et là, nous sommes en altitude parce que nous sommes au second étage de ce bus. Alors, vous savez, ces autobus qu'on voit dans les grandes villes et les gens ont des casques, des écouteurs et dans leur langue, il y a toutes les langues. Alors, on nous explique ce qui est en train de se passer. Mon collègue est un peu affecté. Il est affecté par la grippe. Donc, il est arrivé et dès les premiers jours, la grippe lui est tombée dessus. Je pense qu'elle était là avant le départ au Canada. Mais là, elle est en train de prendre toute la place. Je le trouve bien, bien courageux parce que, bon, c'est difficile de suivre tout cela quand on est vraiment pris là, vraiment pris par une grippe qui nous assomme. C'est vraiment le terme. Donc, on fait ce tour de ville. Plusieurs quartiers possèdent des parcs, heureusement. Les parcs sont des poumons verts dans cette ville de Mexico. On donne des particularités aussi devant telle maison, tel monument. On voit le monument de Christophe Colomb. Alors, ça veut dire quelque chose, Christophe Colomb au Mexique. Ou autres personnages qui ont marqué l'histoire. Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible » ou « Les sept marches de l'escalier » dont je suis l'auteur. Petit Jean sortit après bien du temps, avec dans ses mains l'oiseau qui ne volait toujours pas. Il s'assit sur le seuil de la porte, tandis que la dame de la montagne travaillait tout près de ses fleurs. Il avait les yeux rivés sur le petit village en bas, et lui demanda « Tu peux m'apporter une petite corde ou une ficelle que tu trouveras dans l'armoire, petit Jean ?» Sans dire un mot, il se leva, entra dans la chaumière et revint lui porter une toute petite ficelle. Elle n'était pas pour les fleurs, cette ficelle, dans les mains de la dame de la montagne, qui vint se placer près de lui sur le seuil de la porte. Il s'étonna, et tenant toujours le petit oiseau dans ses mains, il restait muet, le regard blasé en direction de son village. Soudain, elle approcha ses mains et se mit à attacher une patte de l'oiseau. Ensuite, avec l'autre bout de la ficelle, elle fit un petit nœud autour d'un clou planté sur le montant de la porte. Elle s'était maintenant levée, tandis que Petit Jean, témoin de tout ce gestuel mystérieux, n'y comprenait rien. Le petit oiseau avait quitté les mains de son protecteur et s'efforçait d'avancer, mais il n'y parvenait pas à cause de la ficelle. Tout à coup, elle lui dit « Petit Jean, regarde-toi. » Perplexe, il restait dans son mutisme. Elle poursuivit « Si tu veux bien, réponds-moi. » Il eut un mouvement de visible contrariété. Elle lui demanda « L'oiseau peut-il s'envoler ?»« Non, il a une aile brisée. » Son aile bouge maintenant, ne vois-tu pas ? Petit Jean le remarqua aussi, étonné. Elle reprit. Maintenant, l'oiseau peut-il s'envoler ? Il ne répondait rien. Elle ne lâchait pas prise et dit. Qu'est-ce qui l'empêche, sinon cette toute petite ficelle attachée à ce clou ? L'oiseau, c'est toi, la reine la ficelle. Et le clou ton village. » Il resta intrigué, et l'oiseau se mit à vouloir voler, mais il retombait toujours dans son impuissance. Puis, rompant le silence, il dit « Je ne comprends rien. Pourquoi la reine serait-elle la ficelle ? Elle l'est maintenant, puisque c'est elle qui retient ta patte. Qu'est-ce qui m'empêche de la voir, de lui parler ? Une seule chose. Quoi donc ? L'impossible. » Il eut un long moment de silence, puis elle continua doucement. Si tu descends au village, tu perdras tout. On ne cède jamais son premier rêve pour un second, fût-il des plus merveilleux. Mais je risque de la perdre. Tu risques de lui perdre aussi son premier rêve. N'a-t-elle pas commencé à monter les marches de l'escalier? En descendant maintenant, tu perdras ton rêve et peut-être le sien. Là, tu perdras tout. Petit Jean sentait la lumière l'envahir, comme un tranchant dans son cœur. Elle parle encore. Tu gagneras tout si tu poursuis ta route. Quant à elle, si à son tour elle franchit toutes les marches de l'escalier, elle te rejoindra peut-être au sommet de l'impossible. Et son rêve sera le tien. Là, tu auras tout gagné. » Ces paroles bouleversèrent Petit Jean. Puis, avec la peur dans les yeux, il dit « Et si elle n'y parvenait jamais ?» La gorge serrée, elle répondit « Voilà la septième marche de l'escalier, Petit Jean. Elle est dans cette phrase que tu viens de prononcer. Et si elle n'y parvenait jamais ? » Le visage de Petit Jean tomba, et fermant les yeux, il entra dans un profond silence. Puis, les ouvrant, il vit le petit oiseau qui se débattait pour voler. Doucement, il dénoua la patte. Sur sa joue droite, une larme coula. Puis, il détacha l'autre bout de la ficelle qui était retenue au clou. De ses deux mains, il la cassa. Il pleurait. La dame de la montagne s'était placée derrière lui et prenant la tête de Petit Jean dans ses mains, elle la tourna lentement en direction de l'impossible. Elle pleurait. Puis elle dit, dans l'émotion qui l'emportait, « Petit Jean, c'est beau en avant. Oui, c'est en avant que c'est beau. » Dans ses larmes, Petit Jean sourit. Les paroles de Pépé Antoine lui revinrent à la mémoire.
« C'est le seul combat qui compte. »
Le petit oiseau s'était envolé. Tout allait commencer. C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron. Thank you.